discours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 12 novembre 1993.
Critique de la connaissance affective. Il faut bien comprendre que notre intelligence peut être alliée ou au sens. Elle est liée à la mémoire, à l'imagination, au sens externe, à cause de cette union substantielle de l'âme et du corps. Et l'intelligence, notre âme spirituelle, qui se développe par l'intelligence et la volonté, est lié naturellement à toutes les sensations, à toute notre vie sensible. Et la connaissance dite spéculative, contemplative, se sépare progressivement ou par l'abstraction de l'élément sensible pour arriver à saisir ce que seule l'intelligence peut saisir, la raison d'être, l'être. Mais nos sens, nos sensations saisissent le devenir, saisissent les qualités sensibles et les sensibles communs. Et notre intelligence, quand elle reste uniquement liée à tout le point du sensible, ne va pas plus loin. Elle saisit des réalités mues, des réalités sensibles. Mais l'intelligence peut s'élever plus loin. Alors, jugement d'existence, c'est l'intelligence séparée en quelque sorte. Toute la recherche de la métaphysique, c'est l'intelligence séparée. Mais l'intelligence peut s'allier à l'imaginaire. Pour Aristote et pour saint Thomas, c'est l'intelligence mathématique. Tout le possible, tout le domaine des possibles. L'intelligence peut s'allier aussi à nos sensations. L'intelligence artistique, poétique, s'allie à l'aspect symbolique de la réalité. Puis l'intelligence peut s'allier aux passions, à toute l'affectivité qui est en nous, aux passions et à la volonté, à l'amour, et on est en présence de la connaissance affective. C'est une constatation, ça. Je crois que c'est facile de faire cette constatation dans une attitude réflexive. On constate tout le développement des sciences, tout le développement des mathématiques. Les mathématiques restent dans le possible. Et la philosophie atteint ce qui est. Dès que vous êtes dans le possible, vous n'êtes plus strictement en philosophie. Puis l'intelligence peut être une intelligence logique. Qui saisit l'être de raison, l'universel. Et l'intelligence, dans cette attitude réflexive, c'est pour permettre à l'intelligence d'être davantage consciente de son comportement. pensée quand j'abstrais. C'est ça la lucidité que nous pouvons avoir. Et la critique a ce but de nous donner cette lucidité. D'écarter un tout petit peu, vous voyez, tout ce qui fait que quand il n'y a pas de critique du tout, on ne sait pas très bien où l'on en est. Tandis que grâce à la critique, on peut déterminer les différentes zones d'intelligibilité. Et si on distingue ça, c'est pour mieux saisir la vérité à tel niveau. Et l'intelligence peut s'apercevoir qu'il y a un type de connaissance analogue à l'art et très différent de la connaissance artistique, la connaissance affective. Chacun d'entre nous, nous avons une intelligence artistique, nous avons une intelligence spéculative, nous avons une intelligence pratique, nous avons une intelligence affective. Il faut arriver petit à petit à discerner ces niveaux. L'intelligence pratique, c'est simple. Quand vous êtes faire la cuisine, ah, c'est artistique. Tandis que l'intelligence pratique, c'est lorsque vous orientez votre journée en disant « là, je dois obéir ». C'est la prudence, c'est le lien d'intelligence et de la prudence. Et la prudence, c'est l'intelligence pratique. J'ordonne ma vie de cette manière-là. Mais ça, c'est vraiment l'exemple type de la prudence. Je vais consacrer tous les jours une heure à la métaphysique. Parce que je veux pénétrer plus avant dans ma recherche de la vérité. J'ai le courage de m'y mettre à lire l'éthique, à Nicomaque d'Aristote, pendant tant de temps. J'ai le courage de quitter ça et de faire oraison pendant tant de temps. Ça, c'est l'intelligence pratique qui organise ma vie. Oui, dans un langage psychologique, on dira qui gère le capital vital que j'ai en moi. C'est la prudence. C'est pas la psychologie, c'est la prudence. La prudence gère mes capacités. Je sais que je peux faire 2 heures de métaphysique à la suite, mais pas 3, parce qu'après je tomberai dans quelque chose qui n'est plus la métaphysique. Je serai trop fatigué. Et je sais que je peux suivre un cours à peu près potablement pendant 45 minutes. Après, ça déraille. Mais on a cette prudence pour savoir ce qu'on peut faire dans la journée. J'ai absolument besoin de faire un peu d'exercice pour pouvoir dormir le soir. Moi, je suis beaucoup trop tendu. C'est la prudence, j'ai dit. Un peu de sport nécessaire. Mais changement de vitesse. J'ai une boîte de vitesse en moi. Extrêmement merveilleuse. Alors, il y a donc cette intelligence qui se lie à l'amour et qui voit tout à travers l'amour. Et c'est là où nous découvrons ce qu'est le secret. Le secret, nous, mon intelligence affective. Un secret, c'est ordinairement la communication d'une personne à l'autre et qui fait le secret. Un secret, c'est quelque chose qui me noue à l'autre et qui me lie à l'autre. Ça, c'est le secret. Je peux avoir des secrets personnels qui me lient à moi-même. C'est possible. J'ai une expérience, par exemple, très intérieure d'aimer telle personne. Je sens un certain amour. cette personne. Mais je garde ça comme un secret. Je ne vais pas publier tout. Tiens, aujourd'hui, j'ai compris que j'aimais cette personne. Ce sera très gênant pour cette personne. Et c'est une connaissance affective. Pourquoi sommes-nous attirés plus vers telle ou telle personne? Certains philosophes disent qu'il y a des crochets comme ça qui nous boulient les uns aux autres. Des crochets d'acier, des crochets d'or, des crochets de diamant, des crochets et ainsi de suite. Enfin, ça, c'est Platon. Ce qui regarde la diversité des âmes comme ça. En réalité, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. C'est l'éveil de l'amour en moi. J'aime telle personne. Et ça n'exclut pas les autres. Parce que ma capacité d'aimer est infinie. Mais l'exercice de l'amour est limité dans le temps. Ça, c'est sûr. Mais la capacité d'aimer est infinie. Et c'est quand je commence à aimer quelqu'un que je m'approche de cette personne et que je la connais mieux. Et dans la mesure où je la connais de mieux en mieux par l'amour, il y a comme un secret. Le secret le plus profond, c'est de porter en soi l'amour à l'égard de quelqu'un qu'on considère comme un ami. Oui. C'est ça le secret, ça se porte sur une personne. Parce qu'il y a des secrets de polichinelle, vous comprenez. Les secrets de savoir à tout prix ce que telle personne a fait à telle heure. Ça, c'est les secrets de policiers. Il y a toujours un petit policier en nous qui veut savoir, hein, curieux, curieux. Je veux savoir, qu'est-ce que vous avez fait à telle heure? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu un orage. Coïncidence. Thomas nous donne les transcendentaux, c'est-à-dire les rationes convertibles avec la rationis. Oui, les rationes tout à fait premières. C'est intéressant à voir ça. La convertibilité, c'est de voir que l'attribution de l'être et l'attribution de l'un et l'attribution du bien ont la même extension et la même compréhension. C'est ça la convertibilité. Elle est bonne, cette araignée, puisqu'elle fait son métier. Donc si elle fait son métier, elle est bonne. Donc la ratio Bonnie et la ratio N10 sont convertibles en ce sens, même compréhension, même extension. Alors, les transcendentaux que donne saint Thomas dans le De Veritate, c'est res unum avant. C'est ça qu'il découvre en plus de D'Albert le Grand. Alors, je reviens au Ratzenès Boni, au Ratzenès Entis, pour montrer que là, nous sommes au niveau des transcendentaux. Saint Thomas dit ceci quand il compare la raison de bien et la raison d'être. Ce qu'Aristote n'a jamais fait. N'a jamais fait cette comparaison. Saint Thomas le fait en théologien. Mais en critique. Or, la critique peut être commune au point de vue métaphysique, au point de vue théologique. Puisque je suis au niveau de l'intelligibilité. Saint Thomas dit la ratio entis qui détermine l'intelligence a une noblesse unique. Au point de vue de la noblesse, l'intelligence passe avant la volonté. Ça, c'est ce qu'on pardonne pas à Thomas d'Aquin. On dit l'intellectuel, pas du tout. Saint Thomas comprend que la noblesse d'un esprit, c'est son intelligence. Mais Saint Thomas ajoute, quand il s'agit de connaître des réalités inférieures à nous, il vaut mieux les connaître que les aimer. Quand il s'agit des réalités supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître. Donc là, il y a un partage extrêmement intéressant à noter entre le point de vue des êtres inférieurs à nous, des êtres supérieurs à nous. Autrement dit, la raison de bien caractérise le point de vue de la finalité. Et donc, du côté de la finalité, le bien passe avant l'être. Du côté de la noblesse nobilitas, chez saint Thomas, c'est la qualité. Du côté de la qualité, l'intelligence passe avant le point de vue de la volonté. Alors, on comprend comment la ratio entis a une qualité unique. C'est la première, c'est ce qui porte l'intelligibilité de tout et qui détermine l'intelligence. Tandis que le bien porte en lui quelque chose de tout à fait particulier, c'est que du côté de la causalité, la ratio boni fait comprendre le point de vue de la finalité. Je ne comprends la finalité que par la ratio boni. Alors, ça me permet de saisir que l'intelligence qui est faite pour l'être, quand je suis en face d'un être qui me dépasse complètement, je peux, par l'amour, m'approcher de lui plus vite et plus profondément que par l'intelligence. Grâce à l'amour que j'ai pour Dieu, je peux m'approcher de Dieu plus qu'en le connaissant. Et c'est là où on voit bien que quand on dit que saint Thomas est un intellectuel, c'est faux. Parce qu'un intellectuel ne reconnaîtra jamais ça. Et ce sera l'orgueil de l'intelligence. L'orgueil de l'intelligence, c'est de vouloir mettre au-dessus de tout l'intelligence. Mais quand on reconnaît quand il s'agit de réalités qui sont supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître. Je fais passer la raison de bien avant la raison d'être. Quand il s'agit de réalités qui me transcendent. Ça, c'est capital à comprendre ça. Et c'est là où on saisit comment Thomas d'Aquin a vis-à-vis du point de vue de l'amour, et du point de vue de l'être, donc du point de vue métaphysique et du point de vue mystique, ce regard tout à fait particulier que les réalités qui me dépassent, Dieu et le prochain, il vaut mieux les aimer que les connaître. Parce que le prochain, en tant qu'il est prochain, il est pour moi un envoyé de Dieu. Et donc, il me dépasse. Il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est très bien de les connaître pour les aimer plus. Mais les connaître pour les connaître uniquement, c'est pas bien. Parce qu'il y aura quelque chose en eux que je n'arriverai jamais à atteindre. Je n'atteindrai jamais le prochain comme prochain par la connaissance. Il faut l'aimer pour le connaître. Ceci nous fait comprendre comment, dans le développement de notre vie intellectuelle, l'amour intervient constamment pour permettre à ce développement intellectuel d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'un regard de sagesse implique toujours l'amour au service de la recherche de la vérité. Et c'est grâce à l'amour dans la recherche de la vérité que cette recherche de la vérité pourra aller jusqu'au bout. S'il n'y a pas l'amour, cette recherche de la vérité ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, voyons que dans ma vie philosophique, si je ne fais pas intervenir l'amour pour incliner mon intelligence vers la recherche de la vérité, si je n'aime pas assez la vérité, je ne rechercherai pas assez la vérité. Mon intelligence ne sera pas assez ouverte à la vérité. Mais si, par exemple, les recherches métaphysiques vous un certain temps vous disent oh, c'est trop dur, c'est parce que vous n'aimez pas assez la vérité. Si vous aimiez plus la vérité, vous mettriez tout votre amour à pousser l'intelligence à aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Ceci, c'est pour vous rappeler que lorsqu'il s'agit de saint Thomas et de la doctrine de saint Thomas, saint Thomas a un équilibre très étonnant entre intelligence et volonté. Et quand évidemment on simplifie beaucoup saint Thomas, quand on ne voit pas justement que lorsqu'il s'agit des réalités qui sont supérieures à moi, il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est un petit examen de conscience merveilleux, ça. Un examen de conscience philosophique. Est-ce que vous êtes bien équilibré du côté de l'intelligence et du côté de la volonté? Vous êtes bien équilibré lorsque vous avez compris que les réalités supérieures à vous, Dieu et le prochain, il vaut mieux les aimer que les connaître. Et lorsque vous voulez à tout prix connaître plus les réalités qui vous transcendent que de les aimer, vous n'êtes pas très équilibré. Il y a un déséquilibre rationnel. Parce que vous ne mettez pas l'amour au service. Vous ne mettez pas la vérité au service de l'amour. Et l'amour n'intervient pas suffisamment dans la recherche de la vérité. Vous voyez, il y a là un équilibre très très curieux et très important. Et je crois que ce que dit saint Thomas est juste. Et que nous pouvons tous en faire l'expérience. Bon, alors, je reviens. Que représente exactement ce jugement affectif d'une connaissance affective? C'est que je vois tout à travers l'amour. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit du prochain, plus je l'aime, plus je suis proche de lui. Plus, par le fait même, mon intelligence affective Si vous avez compris ça, vous comprenez tout de suite pourquoi la théologie doit s'achever en théologie mystique. Et qu'elle ne peut pas rester au niveau de la théologie scientifique. Puisqu'en théologie, je regarde un mystère qui me dépasse pour pouvoir vraiment connaître de la façon la plus adéquate ce mystère. Il faut l'aimer. Et que c'est en l'aimant que mon intelligence pourra avoir une acuité toute nouvelle. Donc un théologien qui n'aime pas assez Dieu est un mauvais théologien. Un théologien qui n'est pas un contemplatif est un mauvais théologien. La contemplation étant affective, aimante. Alors, la connaissance affective, c'est l'intelligence qui se sert de l'amour pour aller jusqu'au bout de la connaissance. Nous avons l'exemple très simple pour nous de l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, vous aimez l'ami plus que la connaissance que vous avez de lui. Le jour où vous mesurez votre amour à l'égard de l'ami, à la connaissance que vous avez de lui, vous ne l'aimez plus. Parce que le propre de l'amour, c'est de ne pas avoir d'autre mesure que l'amour. Ça, c'est la parole de saint Bernard que saint Thomas aime beaucoup et reprend constamment. C'est que le propre de l'amour, c'est de ne pas avoir d'autre mesure que l'amour. Oui, si vous aimez l'ami en fonction ou en dépendance de la connaissance que vous avez de lui, vous mesurez votre amour à la connaissance que vous avez de lui. Et alors, vous ne l'aimez plus pour lui-même. Vous l'aimez en fonction de votre connaissance. Ce qui montre que dans tout amour d'amitié, il y a un moment où l'amour dépasse la connaissance et va plus loin. Et quand on vous demande pourquoi vous aimez quelqu'un, parce que c'est lui. Pas d'autre réponse. Parce que je l'aime. L'amour possède en lui-même la raison de son amour. Pourquoi vous aimez Dieu? Parce que c'est Dieu. Pourquoi vous aimez Jésus? Parce que c'est Jésus. Alors la foi vous dit parce qu'il est homme et Dieu, parce qu'il est votre sauveur. Mais c'est parce que c'est lui. Et au point de vue humain, pourquoi aimez-vous tel ami plutôt que tel autre? Parce que c'est lui. Il n'y a pas d'autre raison que cela. Parce que l'amour regarde l'autre en lui-même, tel qu'il est. Ceci c'est capital dans l'ordre pratique. C'est pour ça qu'un ami qui aime profondément son ami, un psychologue vient lui dire « Ah, vous n'avez pas remarqué qu'il y a en lui ce déséquilibre. Vous n'avez pas remarqué ça. » Ah, vous dites « Non, je l'aime. » Ah oui, mais vous devez être attentif à ça. Oui, très bien, les éléments que vous me dites. Mais ce n'est pas les éléments que vous me dites qui vont mesurer mon amour. Mesurez l'amour de quelqu'un par la connaissance psychologique que vous avez de lui, c'est la destruction de l'amour. C'est là les dégâts.